17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin spécial aujourd'hui, grand témoin les élections législatives en Algérie qui sont prévues d'ici quelques jours. Et avec Mourad Sid qui est candidat pour l'Union des forces démocratiques et sociales. Bonjour Mourad, merci d'être là.
Merci.
Bonjour. Avec Badis Khenissi. Le choix de bâtir ensemble. Merci Badis d'être là.
Badis Khenissa.
Badis Khenissa. Pardon. En plus, je l'avais écrit. Donc, c'est de ma faute. Nous aurons aussi Haddad Hakim.
Haddad Hakim.
Merci l'invitation. Fondateur de Rage et militant algérien de longue date pour la démocratie. Nous aurons aussi à l'antenne nous aurons Othman Saïd de South Shab, la voix du peuple, et donc qui s'exprima aussi par téléphone. Grand témoin, alors aujourd'hui grand témoin, l'invité c'est d'abord l'Algérie, l'avenir de l'Algérie. Et tout de suite, vous êtes candidats tous à des députés, sauf Hakim Haddad qui va avoir la parole. Et déjà une première question, lorsqu'on sait que les langues nationales, c'est l'arabe tamazir. Est-ce que vous pensez qu'un élu, un sénateur, un député, un haut fonctionnaire ne devrait pas parler le tamazir, c'est l'arabe, là où il est? Peut-être Mouratit.
Oui, pourquoi
pas. En mesure à son langue nationale et langue officielle. Donc je pose la question à d'éventuels futurs députés de la nation.
Oui, bien sûr.
Dont le pays à deux langues, la langue amazigh et la langue arabe, qui sont langues nationales et officielles. Est-ce qu'un député, un sénateur, ne devrait pas parler ces deux langues?
Nous attendons les fondements de cette langue amazigh, déjà. Il y a le Haut Conseil de la langue amazigh qui est en train de mettre en place les fondements. Et je crois qu'un élu doit connaître l'arabe et l'amazigh.
C'est une très belle réponse.
Exactement.
Badis?
Alors, moi, j'irai plus loin, en fait, c'est que, pour faire une analogie avec ma candidature, en tout cas, parce que vous parlez de candidature, dans mon projet, j'apporte un éclairage, mais surtout une réflexion et une action à terme sur l'amazérité. Donc, dans le dispositif ELCO, par exemple, j'entends par là aussi y intégrer l'amazir, parce que, bon, moi, à 41 ans...
L'amazérité qui est consubstantielle de la nature algérienne, de l'identité algérienne, elle est consubstantielle.
Écoutez, c'est les fondations de l'identité algérienne, donc nous ne pouvons pas le renier. Maintenant, il y a l'arabité. Moi, vous avez commencé le sujet avec justement l'identité. Si vous me le permettez à ce moment-là, je vais faire juste une petite analyse très intrinsèque et rapide. L'identité algérienne, c'est l'amazérité, c'est trois piliers. L'amazérité, l'arabité, l'islamité. Ces trois piliers doivent être en équilibre total. Voilà. Donc, aucune ne doit dépasser l'autre. L'amazérité, c'est
en interconnexion, en mélange.
Absolument. C'est ce qui fait la richesse.
Il doit se dégager une harmonie de tout ça.
C'est ce qui fait la richesse de l'Algérie.
Il n'y en a pas une plus que l'autre, ou qui supplante l'autre, ou qui vit au détriment de l'autre, ou l'une qui est criminalisée vis-à-vis de l'autre. Donc là, vous êtes quand même dans
c'est dans pourquoi ce j'ai pris la métaphore des piliers. Vous savez, dans une maison, les piliers, s'il y a un pilier qui dépasse l'autre, la maison, elle s'effondre.
Bien sûr.
Cette maison, c'est l'Algérie.
Et rappelons aussi que l'Algérie, c'est aussi le pays du mélange. C'est un pays qui s'est fait depuis des strates, avec des différents courants de pensée, différentes cultures, différentes langues. Et l'Algérie, c'est le pays de la mixité. C'est ce qui fait la richesse et la valeur de ce pays.
À nous de la transcender, justement, pour faire un levier de développement, effectivement.
Le sentiment, peut-être, de Hakim Haddad, là-dessus. Est-ce qu'un élu de la nation algérienne ne devrait pas parler toutes les langues pour s'adresser à son peuple?
De manière générale, bien évidemment, mais je ne vous souhaiterais personnellement pas rentrer dans la question qui a trait à ces élections, en tout cas à ce que pourrait ou pas faire un élu qui se retrouverait éventuellement à la prochaine Assemblée nationale. Personnellement, je discuterai des élections, de leur utilité ou pas. Voilà. Mais sinon, bien évidemment, un élu ou une élue se devrait pouvoir parler l'ensemble des langues, les deux langues en l'occurrence. Oui, mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait un apprentissage particulièrement de ce qu'est l'amazirité. Quand nous disons l'amazirité, c'est ni le chaoui, ni le kabyle. L'amazirité, c'est un ensemble. Donc, quand les spécialistes se mettront d'accord et qu'ils feront et qu'ils nous proposeront cette langue amazigh, bien évidemment, à ce moment-là, ce sera la moindre des choses que les élus dans le futur puissent intervenir et parler avec ces deux langues qui sont l'Algérie.
Alors, peut-être, on va rentrer dans le vif du sujet des élections futures, qui sont des élections législatives qui arrivent après les élections présidentielles. vous êtes candidat à représenter la communauté ou les communautés ou les diasporas de l'immigration en France. Il y a deux régions, la région Nord, la région Sud, une vingtaine de partis politiques pour la région Nord, une vingtaine pour la région Sud, quatre postes de députés en tout. Badis Renissi, vous, votre mot d'ordre, c'est le choix de bâtir ensemble. Vous pouvez nous expliquer un peu?
Je reviens encore une fois, vous me permettez, c'est Renissa, c'est pas Renissi.
Ah pardon, oh là là, ça, autant c'est pour
ça
moi.
Va rentrer,
ça va. Badis Renissa, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Question très pertinente, effectivement. Le choix de bâtir ensemble, parce que tout bonnement aujourd'hui, je pense que si je reste toujours sur un focus purement diaspora, parce que il est question de, justement de travailler et d'être au service de la diaspora et de la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en France, zone nord. Donc, dans ma conception de ce au-delà du slogan, c'est-à-dire un concept aussi de militant que je suis aussi, le concept de quelqu'un qui a fait aussi de la politique, le concept de quelqu'un qui est dans l'associatif. Donc je considérais par tout ce parcours qu'effectivement je suis arrivé à un diagnostic qui était celui de dire que la diaspora, au-delà qu'elle ait une force, un vivier inestimable, inépuisable pour pouvoir porter sa pierre à l'édifice, elle a besoin également d'avoir un toute modestie gardée, bien sûr, je suis pas là pour la mettre sous tutelle comme on l'a fait depuis toutes ces années, mais plutôt de donner une impulsion, un cap d'espoir pour créer ce rassemblement. J'y tiens beaucoup, ce consensus. Vous savez, souvent on dit il faut fabriquer du consensus pour produire de la démocratie. Donc aujourd'hui, à travers ce slogan, mais derrière tout un programme, la personne qui le porte, son parcours, c'est un agrégat de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que je ne viens pas en fait avec une mission divine qui m'est tombée dessus du jour au lendemain pour dire ok, je suis pour être candidat. Donc c'est un acheminement et un parcours pour capitaliser tout cela, tout en connaissant toutes les problématiques du terrain, notamment l'associatif. Donc rassembler d'abord, créer une synergie, mutualiser cette force inestimable, phénoménale, qui est la diaspora algérienne. Juste pour la parenthèse, c'est la plus grande diaspora en matière numérique, mais surtout en matière de compétences, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs, nous le savons très bien, les success stories à foison. Donc,
Les chiffres sont... tout le monde parle d'à peu près 6 millions d'Algériens en France, à peu près, c'est les chiffres qu'on donne.
Alors, là aussi, il y a une... Il est là le passif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est même pas aujourd'hui capable, effectivement, de faire une analyse fine et une espèce de d'identification et pouvoir répertorier la diaspora. Donc là aussi, d'où est partie aussi ma candidature. Je propose pas mal de leviers pour cela, mais effectivement, on parle de plus de 6 millions d'Algériens à l'étranger. Donc ces 6 millions d'Algériens... C'est, encore une fois, on a besoin des associés. C'est ce que c'est mon leitmotiv un peu. C'est associer nos compatriotes, si demain ils me font confiance, de pouvoir participer dans cette équation de reconstruction, mais surtout qu'elle soit en adéquation avec nos attentes passées, présent et à venir.
Mourad Sid pour l'Union des Forces Démocratiques et Sociales. Badis Renissa, à l'instant, a parlé de cette immigration qu'on a laissée tomber depuis des années et des années. Vous, votre mot d'ordre, c'est le choix du changement. Ça veut dire que la communauté algérienne, la diaspora algérienne, doit être partie prenante du développement du pays.
Plus que ça, elle doit s'engager dans le développement du pays. Pour nous, d'ailleurs, pour rester dans la construction, le pilier de notre programme, il est basé sur l'organisation de cette diaspora. Pour moi, je propose des conseils consulaires au niveau des consulats ou la circonscription consulaire. Ces présidents de conseil vont siéger dans ce que j'ai appelé la maison algérienne qui est sur Paris, où il y a les deux députés de la circonscription qui sont coordinateurs. Maintenant, si un citoyen, par exemple, il a un problème à Metz, il a qu'à s'adresser à son conseil consulaire. Si on peut le régler localement, d'accord. Si on peut pas régler localement, on peut transmettre l'information ici à la maison algérienne sur Paris. Si on peut la régler ici sur Paris avec le conseil général ou avec au niveau de l'ambassade, si c'est pas possible, ça part Alger pour traiter le problème. Mais maintenant, pour arriver à faire ça, je crois que notre diaspora doit s'engager, parce que en fait, l'Algérie c'est leur patrie, c'est pas des sous-citoyens, c'est pas des super-citoyens, c'est des citoyens comme les autres, et on doit l'État doit par souci d'égalité de les laisser, de leur donner leur chance.
Mais moi, on a quand même le sentiment que la diaspora, la communauté algérienne, elle est attachée quasi de façon irrationnelle à l'Algérie. Je veux dire qu'elle aime l'Algérie. J'utilise souvent cette métaphore, mais même demain, si c'est un lampadaire président de l'Algérie, ils soutiendront le lampadaire. C'est-à-dire que la communauté fait bloc avec l'Algérie. Il y a une espèce d'attachement quasi irrationnel, et on a le sentiment que le retour n'existe pas. On a le sentiment que dans l'autre sens, cette immigration, elle est laissée de côté.
Oui, c'est vrai. C'est ça le constat. Donc, on est obligé de prouver qu'on est présent. C'est pas par lever le drapeau quand l'équipe nationale gagne, mais par des actions. Les actions que je peux proposer. Par exemple, les étudiants, la précarité des étudiants. Si les Algériens s'engagent, si par exemple les chefs d'entreprise algériens s'engagent, eh ben ils peuvent trouver des contrats à mi-temps pour les étudiants. En moins, on va baisser la précarité des étudiants. Là, ça c'est s'engager envers sa patrie. Des actions comme ça, c'est s'engager envers sa patrie et envers sa communauté. Genre, si vous aimez l'Algérie, engagez-vous pour aider les enfants de votre pays. C'est ça le message que je comporte, et c'est ça le vrai engagement. C'est pas porter le drapeau quand l'équipe nationale gagne.
Alors, la communauté algérienne en France, les Algériens de France vivent en France depuis plus de 150 ans. On les a vus dans la Commune de Paris, dans la Première Guerre mondiale, etc. Il y a une Algérie de France qui est depuis des décennies dans ce pays. Elle est engagée dans les milieux syndicaux, dans les milieux associatifs, dans les partis politiques. Elle est attachée à la démocratie. Donc, il y a aussi cette façon aussi de vivre un petit peu leur algérianité d'une certaine façon. Est-ce qu'elle est en harmonie avec le pays de l'autre côté? Est-ce qu'il y a un cadre démocratique qui va avec un petit peu leurs aspirations? On y revient dans un instant. On donnera la parole à Hakim Haddad et on vous redonnera aussi la parole à vous.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui, le grand témoin c'est l'Algérie, en particulier sa vie politique, sa vie, son avenir, sa institutionnel, démocratique et citoyen. Est-ce que l'immigration est concernée, puisqu'on est en plein élection législative dans l'immigration, qui a une tradition démocratique, citoyenne, puisqu'elle est engagée dans les associations, les syndicats, les partis politiques? Est-ce que il doit y avoir une corrélation entre cette vie démocratique des deux côtés de la Méditerranée? Et pour ça, peut-être Hakim Haddad a peut-être son mot à dire là-dessus.
Oui, merci de cette invitation et merci de nous permettre de dire notre mot, parce que de l'autre côté de la Méditerranée, on nous empêche de dire notre mot quand on est, en tout cas, quand on voit les choses différemment que vos deux premiers invités, les deux premiers intervenants que je salue, et quand on est contre le processus qui est en cours. Ces législatives n'arrangeront rien du tout. Ces législatives vont probablement encore plus et malheureusement accentuer la crise qui est en cours. La crise qui a fait venir le Hirak, qui a fait que des Algériennes et des Algériens, je ne vais pas rentrer dans les slogans et tout le monde connaît, depuis maintenant plus de 2 ans, ont marché pour une rupture totale avec les pratiques du passé. Et ce que nous voyons, tant concernant l'élection présidentielle du 12-12-2019, tant la modification de la Constitution du 1er novembre dernier, tant le processus qui mènera vers le 12 juin et donc les législatives, est une option dangereuse pour l'Algérie en elle-même et tout le peuple réuni. Je rappelle aujourd'hui, je m'en voudrais énormément de ne pas le faire, qu'on est vendredi et que c'est le deuxième vendredi d'affilée, ou en tout cas à Alger et dans les principales grandes villes du pays, puisque nous parlons, et l'Algérie Nouvelle, et M. Tebboune, et les candidats sont attaqués du tout aux personnes, les candidats à ces législatives parlent de démocratie, d'une Algérie Nouvelle, etc., que les Algériennes et les Algériens sont empêchés de marcher pacifiquement, on ne rappellera jamais assez, sont empêchés de marcher pacifiquement dans les rues de leur pays et un week-end, ce qui veut dire que ça ne gêne personne. Je rappelle également qu'aujourd'hui, vendredi, 3 juin ou 4 juin, nous en sommes à 214 détenus, femmes, hommes et mineurs, détenus d'opinion dans les prisons en Algérie, détenus seulement et simplement parce qu'ils ont donné un avis, parce qu'ils ont posé une opinion, parce qu'ils ont fait une publication de Facebook, ils ont donné une opinion à travers une publication sur un réseau social, principalement bien sûr Facebook, parce que ils ont marché dans la rue, comme c'est le cas d'une dame qui vient de s'en prendre pour un an et qui est à la prison de Coléa, qui marchait, comme d'autres également, avec des pancartes où il était juste marqué un avis qui est ni insultant, ni diffamant vis-à-vis des institutions de l'État, ni rien du tout. Donc voilà ce qu'est la réalité, entre autres choses. Je passe sur les contrôles judiciaires qui sont donnés par dizaines et qui par dizaines ces dernières semaines. Donc tout est fait pour faire taire la voix qui s'oppose à ce processus, qui s'oppose pacifiquement et à travers le dialogue à ce processus qui est en cours. Donc nous parler d'une Algérie nouvelle, c'est un peu se moquer des gens, excusez-moi cette expression, et je pense que en ce qui concerne ce processus, je pas seulement l'Assemblée nationale, mais ça peut mener vers une issue vraiment dangereuse. Je vois un des slogans, le choix.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une constituante.
Le choix de bâtir. Non, il faut refaire complètement le choix de bâtir ensemble. C'est le slogan de Monsieur Kenissa. Nous, pour l'instant, l'Algérie, c'est pas du tout en train d'être bâtie ensemble. Voilà. Le processus, effectivement, et nous continuons à le dire, et c'est la population, c'est le Hirak qui le dit, doit être revu de fond en comble. Effectivement, il faut avant d'aller vers une assemblée constituante, ça c'est des choix personnels ou des différents courants, mais une transition démocratique où tous les courants, effectivement, dans ce pays, se retrouveraient et traceraient ensemble la voie vers l'Algérie, la réelle Algérie pour laquelle, qui serait la continuité de l'Algérie de 54-62, c'est l'Algérie pour laquelle nous luttons et ont lutté d'autres avant nous, une Algérie démocratique, réellement démocratique. Et je pense, et j'en terminerai sur la diaspora, la diaspora a bien évidemment son rôle à jouer là-dessus, et de mon point de vue, elle le joue extrêmement bien avec les rassemblements qui se font à République, les débats et les forums et les discussions, et où nous sommes vraiment, où ils sont vraiment très loin d'être tous d'accord, mais le débat a lieu, les initiatives ont lieu, et donc la diaspora, ou en tout cas une bonne partie de la diaspora, n'a pas attendu que les autorités en Algérie lui donnent la permission de parler. Elle s'est accaparée et elle le fait grandement et comme il faut, et de manière mature, justement parce qu'elle est imprégnée par ces débats, ces valeurs démocratiques qu'elle a pu acquérir de ce côté-ci de la mer, et elle le fait surtout dans le pacifisme le plus total.
Merci à Hakim Haddad. Alors, je voudrais vous donner la parole à vous, Mourad Sid et Abadis Kenissa. Hakim vient de rappeler un peu toute l'histoire de Hirak. Si vous êtes élu député, c'est ce que je vous souhaite, vous représenterez l'Algérie qui a défrayé la chronique avec ce mouvement qu'on appelle le Hirak. C'est Selmiya, la révolution du sourire, qui a été dans le monde entier, qui a été portée au nu à tel point qu'on a voulu lui donner le prix Nobel de la paix. Donc vous êtes porteur de ça, et ce Hirak que le président Tebboune lui-même appelle le Hirak béni, comme on dit le Coran béni, le Ramadan béni, il est béni. Et alors on vous dit aujourd'hui, parce que des gens sont dans la rue, ils manifestent, etc., ils sont en prison. Vous êtes porteur de façon emblématique de cette volonté, puisque l'un et l'autre, c'est à la fois le changement et c'est bâtir ensemble. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Mourad Sid, pour l'Union des forces démocratiques et sociales?
Pour moi, personnellement, ne pas voter, c'est l'inaction. En fait, que proposer à part la rue? Pour moi, personnellement, le dernier... la dernière loi électorale nous a ouvert une brèche. Nous, jeunes hirakistes, on est parmi les premiers du Hirak de Paris pour signaler à monsieur que la première tente qui a été placée à Place de la République, c'était Mourad Sid qui l'a montée.
Venez au prochain dimanche à République.
Je peux venir. Et j'ai demandé une autorisation cette semaine pour mettre à République. Ils m'ont donné Nation, mais j'aurais bien aimé être à République. Venez. Parce que je suis une personne d'action, je suis une personne de dialogue, et j'aime échanger.
Hier. Donc pour vous, le Hirak, ça va dans le bon sens, et aller voter, ça va aussi dans le bon sens. Les deux choses ne sont pas opposées.
Non, le Hirak doit rentrer dans les institutions de l'État. C'est ça le changement. Pour moi, c'est le choix du changement. Il faut avoir un Hirak au sein du changement, au sein des institutions de l'État.
Et d'ailleurs, le président Tebboune a lui-même dit que c'était peut-être un des premiers Hirakistes. C'est comme ça qu'il s'est auto-défini.
Oui, mais moi je vous dis, s'il n'y a pas de Hirak au sein des institutions d'État, il n'y aura plus rien. Parce que dans la rue, on n'aura rien.
Badis Renissa.
Écoutez, je reviens sur au-delà du slogan, c'est-à-dire un concept, pour rebondir un peu avec M. Hakim Haddad, quand il a évoqué justement mon slogan de bâtir ensemble. Effectivement, bâtir ensemble, c'est aussi éviter la confrontation. Parce que bâtir, il faut la déconnecter, disons, de l'aspect idéologique. Parce qu'encore une fois, l'idéalisme est insuffisant aujourd'hui dans la reconstruction. Oui, je l'entends. Vous avez évoqué quelques jalons, le Hirak. On a eu la chance tout à l'heure à la CAFET de faire un peu de débat avant le débat. J'avais évoqué effectivement ce concept que j'avais cité sur des médias, parce que j'ai un parcours médiatique dans lequel justement j'usais de ces tribunes pour pouvoir non pas prendre la tutelle ou la paternité du Hirak comme certains peuvent le faire. Je suis pas non plus le prophète de la 25e heure qui peut donner des leçons aux autres. Mais ce que je retiens, c'est que je ne rentre pas dans la confrontation parce que il faut reconstruire dans l'apaisement. L'apaisement, c'est quoi? C'est aussi mettre les choses à plat. C'est aussi faire table rase au passé sans l'oublier, bien évidemment. C'est aussi débattre. C'est aussi échanger dans le respect. Moi, je suis un fervent croyant, par exemple, Monsieur Kétan, on la reconstruction, disons, en s'accordant sur les fondamentaux et en convergeant sur les finalités. C'est quoi le concept? C'est qu'on s'accorde sur l'intérêt de la nation, sur sa stabilité, sa sécurité dans un cadre géostratégique, géosécuritaire même instable aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le renier. Nous avons un voisin hostile, maintenant qui, au-delà d'un département annexe, indexé à notre pays, il devient autre chose aussi maintenant. Il devient un voisin gênant. Par le passé, par le Sahara occidental, pour ne pas le citer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi les fondamentaux. Ensuite, les finalités, bien sûr. Moi, j'entends ce que dit Monsieur Haddad. Je l'entends très bien. Je l'ai vécu. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on arrive à un état de droit, un état des démocratiques. Mais j'invite mes compatriotes, et en premier lieu, Monsieur Haddad, c'est que j'invite aussi à aller de l'avant, mais surtout d'une manière pragmatique, non pas utopique, mais surtout d'une manière positive. C'est-à-dire, on s'écoute. Moi, je ne criminalise pas celui qui est en opposition. Bien au contraire, je l'écoute. Mais à partir du moment où, en fait, il partage avec moi l'intérêt de la nation et qu'il n'a pas un autre dessein ou un autre projet contre-productif, voire même destructeur. Donc, elle est là la question. Elle est là je reviens un peu en 2015, pour la petite anecdote. J'utilisais justement les tribunes que j'avais, notamment visuelles, audiovisuelles, sur un plateau, 2015. J'avais évoqué que le salut de l'Algérie viendrait du sursaut citoyen, du sursaut républicain. C'est-à-dire ce que, 5 ans plus tard, on a appelé le Hirak.
Voilà. En tout cas, ce qui est très réconfortant dans l'interview que Abdelmadjid Tebboune vient de donner au journal Le Point, c'est qu'il rappelle que le projet de l'Algérie, c'est une république démocratique et sociale. Il le dit 2 fois dans cette interview, et quelque part, c'est réconfortant. Et on va donner la parole à Saïd Othman, qui est aussi candidat pour le parti Saout Shaab. Bonjour Saïd.
Allô, oui, bonjour.
Oui, vous êtes le bienvenu, vous êtes sur l'antenne. Alors vous représentez Saout Shaab et vous êtes à l'antenne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous vous présentez et qu'est-ce que vous avez envie de changer, vous aussi, à votre façon?
Très bien. Donc moi, tout simplement, j'essaie de vous parler. Je travaille en même temps, je suis de garde. Alors, si je me présente, je vais vous dire un mot sur le Hirak, parce que moi, la première fois, j'étais de garde. Donc j'ai arrêté ma garde, j'ai monté avec mes enfants à Paris pour manifester ma volonté au changement. Donc cette fois-ci, on a le changement. Je me suis porté candidat parce que moi je crois aux institutions, je crois au changement par les urnes, je crois au changement par la voix du peuple. Allô?
Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Alors si je me suis présenté, ça fait 30 ans que je suis là. Ma première présentation, c'était au sein de mon association. C'est la seule élection où j'ai participé. Bon, concernant les autres élections, je vous cache pas.
Et vous, qu'est-ce que vous voudriez changer? Quels sont les 2-3 points importants sur lesquels vous voudriez insister dans votre programme? Et qu'est-ce que vous voudriez changer à la fois pour la communauté et pour l'Algérie?
Alors, pour la communauté, moi, je vois que je trouve que la communauté, elle joue pas son rôle. C'est-à-dire, peut-être, elle a été mise de côté bon, pendant longtemps, peut-être, elle a été pas bien représentée. Et ça sera mon rôle. Donc, il faut que la voix de ma communauté soit entendue. Par exemple, moi, je vous cache pas que j'ai deux enfants. Je crois, comme tout le monde, ils ont des enfants. Nous, on fait appel à nos enfants quand il s'agit de l'équipe nationale, quand il s'agit pour jouer le foot. Moi, qu'il faut que les immigrés,
pas comment. Donc, qu'elle soit entendue sur quoi? Sur les problèmes du quotidien, sur le transport aérien, le prix des billets d'avion, sur les rapatriements de corps, sur la possibilité d'avoir des logements en Algérie, sur la possibilité peut-être de créer des entreprises de chaque côté de la Méditerranée, des start-up, peut-être, c'est ça, des relations. Alors, entre les associations, comment cette communauté doit être entendue?
Alors, tout ça, je crois que j'ai remarqué la majorité des programmes, on a parlé de ça. Et on est tous d'accord et on a souffert à peu près à quelques degrés près de la même façon. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, j'ai cité dans mon programme, et pour éviter la répétition, je suis entièrement d'accord. Parce que je ne vous cache pas que ce que vous avez vu en ce moment, 70 ans. Il faut qu'on améliore les choses, il faut qu'on ait des représentants pour parler de ça. Si on a quelqu'un, si on a un représentant du peuple, ça sera l'intermédiaire pour régler tous les problèmes que vous avez cités, partant du billet, de la souffrance même au sein de la douane, il faut le dire, là, quand on rentre en Algérie, on se prépare pour une longue journée, sinon en bateau, voire plus des fois. Alors, moi, je peux ajouter en plus ce que vous avez dit, dans la diaspora, il y a de nombreux talents qui ont été mis de côté. Personne moi je connais plein, bon, je suis issu d'un milieu scientifique, je suis médecin, je connais plein de médecins qui veulent rentrer pour faire quelque chose. Mais ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas. Donc ça sera, en dehors des points que vous avez cités, ça sera mon rôle de faire le lien, de rassembler ces nombreux talents pour faire quelque chose pour
l'Algérie. Merci, Saïd. On aura l'occasion de vous retrouver sur l'antenne, bien sûr. On vous souhaite une bonne continuation dans votre journée de travail. Et à très bientôt sur l'antenne de Beurre FM. Et on se retrouve dans un instant avec nos invités pour la dernière partie de cette émission.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
L'invité spécial aujourd'hui, c'est l'Algérie à travers ses consultations électorales dans quelques jours. Aujourd'hui se pose l'avenir de l'Algérie. On a abordé dans cette émission la réconciliation du peuple algérien, de la nation algérienne qui malheureusement a connu dans son histoire des soubresauts, c'était des tremblements de terre, des fractures, et puis on va pas toutes les citer ici, mais c'est à chaque fois c'est heurté. Comment on va vers cette réconciliation dont parlait Badis tout à l'heure? Comment ce consensus peut se faire avec un minimum de choses de dénominateur commun, et puis cette diaspora, cette communauté, qui est fière d'être algérienne, que ce soit deuxième, cinquième, dixième génération, comment capitaliser cette fierté, et comment faire match, en fait, pour reprendre le terme ADN, comment faire match à la fois entre le développement du pays et cette aspiration de la communauté à aimer son pays et peut-être à l'aider à avancer. Peut-être Badis, pour commencer.
Bien sûr, si vous voulez, la réconciliation se construit. Mais à partir du moment où on a de l'initiative, on amorce l'initiative, mais surtout on a la volonté de vouloir le faire. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord autour de cette table que la diaspora aujourd'hui, au-delà de sa fibre patriotique, elle est aussi dans l'offre, elle est aussi dans la proposition, elle est aussi dans l'écoute et de vouloir justement exprimer peut-être ce que je qualifierais de force tranquille, de force positive, constructive. Comme elle l'a fait par le passé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure peut-être, la 7e wilaya, les porteurs, les porteuses de valises. Mais au-delà de ça, vous avez parlé aussi d'un point très important que, si vous me permettez, le peuple algérien, dans son ensemble, et la diaspora en l'occurrence, on a vécu des traumatismes par le passé. Pour reprendre Pierre Bourdieu, l'aliénation coloniale, donc tout le projet colonial, ça c'est une histoire. Ensuite, des jalons, plusieurs jalons assez traumatisants et qu'on n'a pas su expier. On n'a pas su, ce qu'on évoquait tout à l'heure, un peu on n'a pas eu cette thérapie exutoire collective pour pouvoir l'exprimer d'une manière pacifique. Cependant, le Hirak est venu. Il y a eu une Algérie d'avant et d'après le 22 février. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de devoir, finalement, aller dans le continuum de cette impulsion citoyenne et silmia, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais pour cela, nous avons besoin de créer des jalons. Ces jalons importants, des jalons intermédiaires aussi. J'entends monsieur Haddad quand il parle d'état de droit. Je l'ai moi-même défendu par le passé des années durant, quand le régime était même debout, je dirais. Mais cet état de droit, on a besoin aussi de créer un rétro-planning dans un consensus, dans une réconciliation, mais réconciliation, attention, c'est-à-dire pragmatique. Réconciliation dans laquelle nous avons besoin de mettre en exergue, pour revenir à la diaspora, puisque c'est l'objet de ce débat aussi, c'est de la mettre, la reconsidérer. Moi, j'ai été plus loin dans le projet, par exemple, que je porte et que j'invite à la diaspora à s'associer, parce que c'est un partenariat que je propose et non pas une voie que je demande ou que je quémande. C'est de s'associer, c'est aussi ce que j'ai appelé le soft power, c'est-à-dire agir comme toutes les communautés le font à travers le monde. On a cet avantage d'être la plus grande communauté, la plus forte en matière de compétences, d'en faire justement, de profiter de ses talents pour pouvoir les reconsidérer. J'évoque par exemple les binationaux, nos élus binationaux dans la politique française par exemple, qui sont aussi d'origine algérienne. C'est une manne diplomatique qui contribuera à l'essor justement des liens avec le monde, mais surtout à l'essor aussi l'émergence de l'Algérie et de sa diplomatie, qu'elle soit d'ailleurs économique ou autre. Donc, voyez, on a des pépites qui sont disséminés un peu partout.
C'est vrai que la binationalité longtemps a été vécue par différents États comme une espèce de cinquième colonne. Alors aujourd'hui, c'est renversé. C'est perçu comme un avantage et une force pour essayer de lancer des passerelles et des partenariats réciproques, mutuels, avec les différents pays.
C'est pourquoi c'est pas innocent que j'ai évoqué ce sujet. Parce qu'effectivement, j'ai été aussi en 2015-2016 fervent défenseur sur des tribunes médiatiques contre l'article 51, 61 et autres. Donc j'étais de toutes les luttes justement qui toucher la diaspora. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous savez, j'ai par exemple boycotté le 2017, 2012, les municipales et autres. Donc, mais aujourd'hui, je pense, en tout cas, j'estime, à ma connaissance, selon mon point de vue, encore une fois, parce que j'ai évoqué tout à l'heure cette divergence de vision, on a le droit, c'est ça aussi la démocratie, parce que la démocratie ne se décrète pas. La démocratie, c'est pas un menu à la carte. Nous devons aller dans ce sens, mais avant cela, nous devons aussi appliquer l'apprentissage de cette démocratie.
Mourad cite pour l'Union des forces démocratiques et sociales. Est-ce que c'est cette réconciliation et ce consensus, est-ce qu'il ne faut pas aussi, il ne va pas de pair avec peut-être l'abandon du code de la famille en Algérie, où la femme elle est un peu à l'écart, et mettre l'homme et la femme sont identiques. Il peut peut-être aussi mettre un peu la religion de côté, puisque le président lui-même a rappelé que c'est une république démocratique et sociale. Donc la religion, c'est de l'ordre du privé et de l'éloigner de la politique. Est-ce que la réconciliation du pays ne passe pas aussi par le fait d'associer la femme de façon paritaire au développement du pays et mettre la religion de côté pour développer aussi le pays, Mourad?
Par rapport à la religion, je crois que c'est au peuple algérien d'en décider. Donc je ne peux pas me prononcer, même si moi, à mon niveau personnel, je vois que c'est de l'ordre du privé.
C'est de l'ordre du privé?
Mais pour moi, à titre personnel, je vois que c'est de l'ordre du privé. Par contre, je ne peux pas me prononcer par rapport à la religion, comme l'a bien précisé M. Khenissa tout à l'heure, que c'est un pilier ou c'est l'un des fondements de l'Algérie actuelle. Maintenant, parlant du rôle de la femme. Pour moi, la femme algérienne, c'est qui? C'est la reine dans notre histoire. C'est la combattante, c'est la militante, c'est elle tient la main de l'homme. Nous, en Algérie, nous n'avons jamais eu une femme qui n'avait pas le droit de vote, par exemple, comme ici en France. Donc, je ne vois pas pourquoi.
On est d'accord, mais on sait que plus de 12 000 femmes ont contribué à la libération du pays. Ouais. Elles ont été sergents, elles ont été capitaines, elles ont été dans l'armée nationale populaire. Mais on leur a fait un code de la famille qui légifère quand même un certain nombre de choses du point de vue de leur liberté privée. Et Jamila Bouhared, elle-même, qui est dans les manifestations du Hirak, a fait une lettre à l'ex-président Bouteflika. On dit au président d'une Algérie que j'ai voulu indépendante. Ouais. Donc ça veut dire que la femme algérienne qui s'est battue aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait l'égale de l'homme.
Elle doit se battre aussi. Donc il y a cette occasion des élections, eh ben, qu'elle nous montre ce qu'elle veut et qu'elle rentre aux élections. C'est ce que je demande au Hirak, ce que je reproche. En fait, le Hirak, nous, et le Hirak, on a le même objectif, en fait. Sauf, là, on n'utilise pas les mêmes moyens. C'est juste ça. Genre, si vous avez quelque chose ou défendre n'importe quelle idée ou un projet, eh ben proposez-le au peuple et on va voir c'est le vote
et
qui
sur, et sur la diaspora, sur cette fierté d'être algérien, qu'est-ce qu'elle peut apporter au pays?
Cette diaspora, normalement, elle va contribuer à construire son pays comme tout autre Algérien. Il ne faut pas qu'elle reste marginalisée.
Pour vous, la binationalité aussi, c'est un élément positif.
Ben oui. Eh ben oui,
ça peut encourager.
Qu'il faut encourager, ça va unir les deux rives. Entre l'Algérie, par exemple, nous on parle de la France, l'Algérie et la France, ça va les unir, ça va contribuer à l'évolution de l'Algérie, comme ça va contribuer à l'évolution de nos pays d'accueil.
Sur cette histoire de réconciliation, Hakim Haddad.
D'abord, moi j'entends depuis tout à l'heure que nous serions les membres du Hirak, enfin les millions de personnes, ou que nous serions contre un processus électoral. Pas du tout. Nous sommes contre ce processus électoral, nous sommes contre les processus électoraux qui ont été initiés depuis le 12-12. Nous ne sommes pas, et moi personnellement, j'ai été élu à la wilaya d'Alger, à la POI d'Alger, j'ai fait un mandat de 5 ans, j'ai été candidat sur des listes à Alger à 2 législatives. Voilà, donc je ne peux pas être contre un processus électoral. Nous sommes contre ce processus électoral, on doit le dire, y compris depuis le 12-12, et encore plus à la date qui arrive, après libre à chacun de se présenter, personnellement libre à chacun de se présenter, mais parce qu'il ne mène pas du tout l'Algérie vers un consensus démocratique. Qu'on se rende compte, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dangereux, un président de la République ou supposé l'être qui a été élu avec moins de 20% et je pense que même moins de 15%, une constitution qui a été amendée avec les chiffres officiels donnés par les autorités à 23% seulement, et je pense malheureusement sans vous faire offense qu'il va y avoir très 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 peu, et je donnerai pas le chiffre, ou à la limite moins de 10%, moins de 15% qui vont participer à élire une Assemblée nationale. Et je rappelle, puisque vous êtes candidat pour la diaspora, que la diaspora est la deuxième, je dirais entre guillemets, wilaya qui vote le moins dans ce processus depuis le 12-12. C'est à peine 0, ou 1,2 ou 1,3 ou 3 ou 4%. Voilà. Donc, comment pouvons-nous construire un pays, une nation qui se respecte avec les beaux discours de M. Tebboune et de tous ceux qui l'entourent ou qui vont dans ce sens, avec des scores aussi petits? Ça ne donne pas de légitimité à ces institutions, malheureusement, et sans vouloir, j'en finis, sans vouloir m'attaquer à quiconque encore une fois, mais au processus. Comment voulez-vous aller à un processus démocratique? Comment aller à des élections quand des partis, je rappelle encore une fois, on rappellera jamais assez parce qu'ils sont en prison et je sais ce que c'est la prison, j'en ai fait quelques mois, dans le cadre du Hirak bien sûr, 214 détenus, des partis politiques qui existent depuis longtemps, qui ont été agréés, qui sont menacés de dissolution, des associations comme l'association Rage qui est sous le coup d'une dissolution, le président d'SOS Bebeloued, une association qui fait pour les jeunes à Bebeloued plus qu'en fait 5 ou 6 ministres pour la jeunesse à travers le pays, donc qui est en prison et qui l'association menacée de dissolution. Comment pouvons-nous croire et comment on peut nous dire qu'il y a un processus démocratique en cours quand, à côté de cette élection, il y a autant d'injustices? Donc comment faire pour aller de l'avant? Je vais être très bref, c'est remettre tout ça à plan et que oui, il y a un besoin que toutes les forces politiques et c'est encore possible de la part de M. Tebboune, quitte à me faire taper sur les doigts, je le dis aussi, c'est encore possible qu'il puisse se reprendre et remettre sur la table, mettre autour de la table toutes les parties IES et les parties IS de cette Algérie qui divergent sur des choses, mais qui convergent pour construire ce pays. Et la démocratie, c'est pas le tout, c'est pas juste des slogans, c'est aussi des processus.
Hakim Haddad, homme de dialogue, on retiendra votre main tendue et la porte ouverte au président Tebboune. Mourad.
Un état de droit se construit, c'est pour ça. Votons.
Alors, pour terminer, vraiment très brièvement, on a une minute pour terminer. Il y a eu un rapport sur l'aspect mémoriel de Benjamin Stora. Ça a été un ping-pong entre les différents historiens. Est-ce que la communauté peut pas être, en étant binationale français et algérien, être associée à ce travail de mémoire des deux côtés? C'est-à-dire qu'elle est les jeunes de la communauté, enfin, l'immigration, elle est à la fois française et algérienne. Donc elle n'est pas dans ce ping-pong et dans cette bagarre permanente. ça peut être un trait d'union entre les deux pays pour la réconciliation aussi.
L'histoire doit être écrite par les experts. Il faut pas mêler l'histoire à la politique.
Écoutez, je pense que la diaspora aujourd'hui, comme trait d'union, comme on l'avait dit, peut construire des passerelles mémorielles. Et ce que j'ai qualifié de chantier de mémoire et d'histoire, il faut reconstruire en fait une mémoire apaisée pour pouvoir construire cette fraternité entre les deux pays. Autrement, on va tomber dans la confrontation. Et c'est pourquoi j'encourage et je œuvre avec toutes les associations algériennes, que ce soit en France ou en Algérie, pour continuer dans ce travail. Et d'ailleurs, j'évoque le 17 octobre 61 où je veux identifier les victimes de ces familles pour pouvoir leur donner le statut qui leur revient, c'est-à-dire d'enfants de martyrs. Mais il faut une reconnaissance du projet colonial, il faut faire les choses, certes avec un travail d'historien, mais surtout le dépolitiser et travailler dans ce sens, dans un contexte favorable.
Badis Renissa, merci. Vous êtes la liste numéro 27 sur les élections futures. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Mourad Sid, l'Union des Forces Démocratiques et Sociales, vous, c'est le numéro
9,
donc le choix du changement. Othmane Saïd, qu'on a eu à l'antenne, donc Saout Echab, j'ai pas son numéro. Hakim Haddad, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est la liste, ne votez pas.
La liste, ne votez pas. Élections. En tout cas, on a fait un débat qui, je pense, a été fructueux, qui, j'espère, vous aura éclairé, vous qui écoutez cette émission, qu'on retrouvera sur le podcast de la radio de façon permanente. Merci et à très bientôt pour Les Grands Témoins.
Merci à vous.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.